Bonjour, vous êtes bien sûr.
Bonjour, monsieur Gère.
À l'écoute de
Élève-toi
avec les enfants.
Une émission pour les parents et les professionnels de l'enfance et de l'éducation, tous ceux qui ont envie de s'élever auprès des enfants, afin de les accompagner avec justesse et leur permettre de donner tout leur potentiel dans ce monde. Bienvenue pour cette 52e émission de Élève-toi avec les enfants. Ici Émilie au studio de Feltin pour une nouvelle émission. Oui, je ne suis pas venue depuis longtemps. Est-ce que cette émission sert à quelque chose? Si oui, si ça vous intéresse, si vous l'écoutez, envoyez-moi un message. Ça me redonnera l'élan de revenir plus souvent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous lire le début du livre qui s'appelle « Qui veut jouer avec moi ?» du docteur Laurence Cohen. Il est paru en poche chez Marabout il y a bien longtemps déjà. Il coûte 7,50 € et vraiment, c'est une pépite. C'est un gros livre, hein. Il y en a pour un petit moment. C'est traduit de l'anglais, de l'américain je pense, même plutôt, il y a plus de 420 pages. Voilà. La préface est faite par Isabelle Fioza. Voici ce qu'elle écrit. Le parentage ludique de Laurence Cohen, en trois mots, jouer, jouer et jouer. Jouer pour nourrir le réservoir d'attachement de l'enfant, jouer pour l'aider à construire sa confiance en sa personne propre, jouer pour lui donner de la liberté, jouer pour l'écouter, jouer pour l'aider à dépasser les moments difficiles de sa vie, jouer pour partager du plaisir et du bonheur. Ce livre démontre magnifiquement mon leitmotiv. L'amour n'est pas une récompense, c'est du carburant. Quand les enfants en manquent, ils développent toutes sortes de comportements visant à tenter d'en obtenir. Si je regrette une chose avec mes enfants, c'est d'avoir été trop sérieuse. J'ai joué des milliers d'heures aux perles, aux puzzles, aux constructions, aux peluches et aux Barbie, aux Monopoly et aux tire-monopoly. J'ai hélas été trop tentée par les jeux éducatifs. Et nous n'avons pas fait assez de jeux libres. J'aurais aimé découvrir le livre de Laurence Cohen quand mes enfants étaient petits. Cela nous aurait évité bien des tensions. Ils connaissent si bien les enfants. Ils décodent si merveilleusement leurs messages que cela nous aide à dépasser nos inhibitions d'adultes. Lire son livre m'a rempli le cœur et je suis heureuse de vous le présenter. Bonne lecture. Avant-propos par le docteur Cohen. Alors je dis docteur, là je me rends compte, en fait il est thérapeute, je ne sais pas s'il est docteur, là c'est pas écrit spécialement, bon. Au début de ma carrière de thérapeute, j'avais surtout pour clients des adultes. Nous passions une séance après l'autre à parler de leur enfance. J'ai alors mesuré à quel point compte pour un enfant de se sentir proche de ses parents ou d'une grande personne, quelle qu'elle soit. Bien entendu, quand ma fille est venue au monde, j'étais décidée à nouer avec elle un lien émotionnel fort. Je me suis toutefois vite rendu compte que ce ne serait pas simple. L'attachement entre parents et nouveau-nés relève pour ainsi dire de l'instinct. Mais les choses se compliquent dès que l'enfant devient plus remuant et commence à s'exprimer verbalement. Ma fille Emma voulait jouer. Que j'ai passé ou non une bonne journée, quelle que soit mon humeur, elle réclamait ma compagnie quand je n'avais envie de voir personne, sollicitait mon entière attention alors que j'avais du pain sur la planche et tenait à ma présence, même lorsqu'elle s'amusait seule. La force des émotions pour le moins mêlées qu'a éveillé en moi son attitude m'a moi-même surpris. Il m'en coûte de l'admettre, mais bien souvent, j'aurais tout fait plutôt que de me mettre à quatre pattes pour satisfaire le besoin d'attention apparemment infini de ma fille. Il m'arrivait de m'asseoir par terre, à côté d'elle, pour m'endormir aussitôt. Et pas seulement par manque de sommeil. J'avais déjà tant donné de moi, et maintenant, elle voulait en plus que je joue avec elle. Au fil du temps, ma pratique a évolué vers la thérapie par le jeu pour enfants et le soutien aux parents. Les thérapies destinées aux adultes attribuent parfois aux parents un rôle néfaste. Ils sont pourtant en mesure d'incarner dans la vie de leurs enfants une composante positive d'une force extraordinaire. À mon sens, s'il y a bien une chose que les parents ont intérêt à apprendre, c'est à jouer. Par chance, l'aptitude au jeu s'acquiert plus facilement que beaucoup d'autres. Nous sommes tous conscients qu'il vaudrait mieux éteindre la télé et passer plus de temps en famille. Mais pour faire quoi ? Le livre que voici vous indiquera comment vous amuser avec des enfants de tous âges, confrontés à l'acquisition de nouvelles compétences, en train de se remettre d'une blessure, ou qui déborde tout simplement de vie. En assumant sur le mode ludique votre rôle de parent, en allant à la rencontre de votre enfant dans son monde, en l'aidant à gagner en assurance, en inversant les rôles et en lui laissant prendre les devants, vous l'aiderez à dépasser ses blocages affectifs et à gérer ses émotions. Et les vôtres par la même occasion. Vous apprendrez en outre à faire face aux rivalités entre frères et sœurs, entre autres problèmes épineux, et enfin à repenser la discipline et les punitions. Enfin, si nous voulons transmettre espoir et enthousiasme à nos enfants, nous devons trouver à nous ressourcer. Le parentage ludique fourmille de conseils pratiques pour exercer au mieux et avec humour notre métier de parent. Jouer à des jeux idiots peut ainsi permettre de contrebalancer le sérieux des liens profonds qui nous unissent à nos enfants. Le parentage ludique vous aidera à résoudre bien des difficultés au sein de votre foyer. Cela dit, je m'adresse aussi aux familles où tout va bien. Mon livre devrait permettre aux enfants de plus s'amuser et il ne devrait pas déplaire non plus aux adultes. Après tout, pour nous aussi, le jeu reste un besoin. Chapitre 1er. L'intérêt d'une approche ludique de l'éducation. Citation. Le jeu est l'essence de la vie. Cosby Rogers et Janet Sawyers dans Play in the Lives of Children. Mon anglais n'est toujours pas parfait. Songez au regard empreint d'amour d'un nouveau-né, à l'étreinte sans retenue d'un tout petit, au plaisir partagé d'une histoire à l'heure du coucher, ou à une promenade en silence main dans la main. Ces moments d'intimité nous récompensent de notre dur labeur de parents. Il arrive hélas trop souvent que le courant passe mal. L'affrontement prend le pas sur la tendresse avec les inéductables conséquences que l'on connaît. Le nouveau-né n'arrête plus de pleurer, le bambin pique une crise de rage, l'enfant de 8 ans refuse d'aller se coucher, le préadolescent boude dans sa chambre. La pétulance des enfants et leur curiosité naturelle les amènent souvent à sortir les griffes. À moins qu'ils ne se cachent derrière une console de jeu ou une porte fermée à double tour. Notre ressentiment ou notre colère éclipse alors notre affection. Nous les houspillons, nous les punissons ou nous baissons les bras. Très bien, concluons-nous. Reste dans ta chambre. À bout de patience ou par habitude, nous élevons la voix en nous sentant démunis ou rejetés. Nous aimerions rétablir la communication et nos enfants aussi, mais comment ? Nous les aimons toujours. Pourtant, c'est à peine si nous nous rappelons nos regards attendris lors de leur prime enfance. Et quand c'est le cas, nous en gardons un souvenir teinté d'amertume, convaincus que jamais plus nous ne connaîtrons une telle proximité. Le jeu et l'humour permettent de rétablir un lien affectif fort entre parents et enfants. Dans la mesure où le jeu fournit une occasion de s'extérioriser et de passer de bons moments en famille, il libère aussi de la tension liée à l'éducation. Assumer son rôle de parent sur un mode ludique permet d'entrer dans le monde de l'enfant, sans le brusquer, en développant sa confiance en lui et en nous. Un enfant qui va bien donne libre cours à sa joie et à sa créativité par le biais du jeu. Un moyen pour lui de s'approprier le monde, de l'explorer, de l'investir d'un sens et de se remettre de ses contrariétés. Jouer n'est pas toujours évident pour un adulte, cela nous paraît bien loin. Les enfants et les grandes personnes semblent souvent évoluer dans des mondes à part, y compris quand ils vivent sous le même toit. Ils jugent ennuyeuse ou dépourvue le sens des activités favorites des uns des autres. Ne se lasse-t-elle donc jamais d'habiller sa barbie ? Comment supporte-t-il de rester une soirée entière à discuter à table ? Exercer son métier de parent en jouant peut sembler paradoxal. Pourtant, il ne faut parfois qu'un petit effort pour s'amuser en famille. À un concert en plein air, je dansais auprès de ma fille de 9 ans quand une mère et son fils s'approchèrent. La mère se mit à se trémousser tandis que le garçon restait planté là, les bras croisés, trop timide pour se lancer sur la piste. Je lui donnais 6 ou 7 ans. Sa mère se fâcha. « Tu m'as traîné jusqu'ici et tu veux pas danser ?» Le garçon enfonça ses talons dans le sol. Je voyais d'ici, et vous aussi sans doute, comment cela allait se terminer. Je m'interposais. Il a inventé une nouvelle danse, expliquai-je en croisant les bras comme lui et en lui adressant un franc sourire. Il me sourit à son tour et plaça les mains entre manches, l'imitait. Sa mère saisit, elle aussi décida de mimer son attitude. Fou rire général. Le garçon remua enfin les épaules au rythme de la musique et sa mère s'écria. « Ah mais voilà que tu danses maintenant !» Il passa dès lors un excellent moment. Moi aussi, de même que ma fille qui attendit patiemment la fin de mon intervention ludique avant de réclamer à nouveau toute mon attention. En résumé, un peu d'humour suffit à renverser la vapeur. Mon exemple prouve qu'on peut assumer son rôle de parent avec humour n'importe où, n'importe quand, à l'heure de jouer, mais aussi de consoler un nouveau-né, de faire des emplettes, de se lancer dans une bataille de polochons, d'ôter les stabilisateurs d'un vélo, d'imposer des règles, de gérer les émotions déclenchées par une chute au jardin d'enfants, de se préparer à l'école ou encore de prêter l'oreille aux craintes qui surgissent à l'heure du coucher. Le hic, c'est que beaucoup de situations nous dépassent, en particulier quand du ressentiment s'y mêle. Il faut reconnaître que la vie des adultes ne laisse pas beaucoup de place au jeu. Des quantités de contraintes et d'obligations régissent notre quotidien. Quand nous faisons l'effort de jouer avec nos enfants, la lassitude nous envahit souvent. Surtout après une dure journée de travail ou des corvées ménagères. Nous voulons bien accéder à leurs désirs, comme la mère au concert en plein air. Mais quand ils ne réagissent pas comme nous l'escomptions ou qu'ils attendent trop de nous, cela nous contrarie. Certains d'entre nous ne parviennent pas à passer outre leur besoin d'avoir le dessus, de rester maître de la situation. Les rares fois où ils jouent, ils trouvent le temps long, prennent la mouche, tournent en rond. Nous n'aimons pas perdre. Nous insistons pour enseigner à nos enfants à lancer correctement la balle, alors qu'ils ont juste envie de la rattraper. Nous nous plaignons de leur manque de concentration, mais combien de temps nous faut-il pour que notre attention se disperse quand nous jouons aux billes, à la poupée ou au Monopoly, parce qu'il nous semble que nous ferions mieux de préparer à dîner ou d'avancer dans notre travail ? Du temps où elle allait à la maternelle, ma fille eut l'idée d'un jeu qui m'a aidé à garder mon sens de l'humour au lieu de lui crier dessus. Un matin, elle dévala l'escalier et se cacha derrière la porte en chuchotant.
« On dirait que je suis encore en haut et qu'on va être en retard et que tu piquerais une colère. »
Je criai en me tournant vers la cage d'escalier. « L'heure tourne, je suis en colère !» Là-dessus, je tempêtais en tapant du pied. Pendant ce temps-là, ma fille, derrière la porte, gloussait en se couvrant la bouche d'une main. Je poursuivis.
« Oh, tu as intérêt à descendre tout de suite, hein, sinon je m'en vais sans toi, je partirai tout seul à la maternelle, tant pis pour toi. »
Elle se mit à rire si fort que je dus faire semblant de ne pas l'entendre. Tout en la laissant sortir avant moi, je prétendis m'en aller sans elle. Elle monta en voiture où je fis mime de me parler à moi-même.
« Ah, je suis foudrage, hein, mais oui, ma, va demander la maîtresse. »
Je répondrai « Bah, elle n'était pas prête, alors je suis partie tout seul. » Ma fille riait aux éclats, elle s'était arrangée pour que les préparatifs du matin m'amusent, moi. Feindre la colère m'a évité de me mettre en colère pour de bon. La laisser s'amuser plutôt que de lui crier dessus l'a poussée, en fin de compte, à se dépêcher. Pourquoi les enfants jouent ? Certains enfants aiment mener la danse, d'autres se contentent de suivre le mouvement. Il y en a qui prennent plaisir à se déguiser, d'autres qui préfèrent les jeux de ballon. Malgré tout, chaque enfant manifeste dès la naissance une propension à jouer, qui se développe pleinement vers l'âge de 2 ou 3 ans. Un enfant peut jouer n'importe où, n'importe quand, en se réfugiant dès qu'il le souhaite dans un univers parallèle où l'imagination est reine. Un adulte considère le jeu comme un loisir, alors que pour l'enfant, il équivaut plutôt à un travail. Contrairement à la plupart d'entre nous, les enfants raffolent de leur travail et ne réclament que rarement un congé. Sans compter que le jeu constitue une manière pour eux de communiquer, d'apprendre. Un enfant qui ne veut pas ou ne sait pas jouer est manifestement en grande souffrance, à l'instar d'un adulte incapable de travailler ou de parler. Il faut souvent enseigner à jouer aux enfants maltraités avant qu'ils ne tirent profit d'une thérapie par le jeu. Pourquoi le travail des enfants nous paraît-il aussi cruel ? Parce qu'il les prive de leur enfance en les empêchant de jouer. Le pire reste quand leur exploitation a pour but d'offrir aux adultes plus de loisirs, comme l'exprime ce poème de Sarah Northcliffe Cleghorn, écrit au XIXe siècle. Le terrain de golf est si près de l'usine que presque tous les jours, les enfants qui travaillent en jetant un coup d'œil dehors voient les hommes jouer. De nombreux spécialistes décrivent le jeu comme un lieu, le royaume de la magie et de l'imaginaire, où l'enfant se sent libre d'être pleinement lui-même. Comme l'a écrit la psychologue Virginia Axlin à propos des colliers à la maternelle. Ils n'hésitent pas à identifier un tas de sable qu'ils escaladent en criant à tue-tête. « Je suis capable de faire un tas de sable ou de le démolir si je veux, je suis grand et fort !» La nature spontanée du jeu m'a été rappelée lors de la fête organisée pour les 3 ans de ma fille. Ayant songé à quantité de jeux à pratiquer au square, je me fis bien sûr un devoir en tant que psychologue d'en expliquer les principes complexes aux enfants qui me regardèrent comme un martien. Je me demandais quelle contenance adopter. Mes petits invités semblaient trop énervés pour rentrer, et d'un autre côté, ce que je leur proposais ne leur disait visiblement rien. Mon épouse intervint. « Écoutez-moi, leur dit-elle. Vous allez courir jusqu'à l'autre bout du parc et revenir aussitôt. » Les camarades de ma fille partirent comme des flèches, en riant et criant de bon cœur, avant de s'effondrer dans l'herbe à bout de souffle. Ils se tournèrent alors vers moi et un garçon me demanda « Ah, c'était chouette, on peut recommencer ?» J'ai compris la leçon. Pour autant, je ne compte pas renoncer à disserter sur les aspects sérieux du jeu, une activité amusante mais surtout complexe car riche de sens. Plus un animal est intelligent, plus il joue. À la différence des limaces ou des arbres, les êtres humains découvrent le monde et apprennent beaucoup en se livrant à des expériences dans le cadre, entre autres, du jeu. L'enfance se prolonge de plus en plus longtemps chez les êtres humains, ce qui suppose qu'ils passent de plus en plus de temps à jouer. L'importance du jeu ne découle pas uniquement de l'énergie qui investissent les enfants, mais des nombreux niveaux de sens qu'il comporte. Prenez un jeu aussi simple en apparence que de lancer une balle. Il suffit de s'y intéresser de très près pour s'apercevoir qu'il implique plus qu'il n'y paraît à première vue. En jouant à la balle, l'enfant apprend à coordonner ses gestes, il passe un bon moment avec son père ou sa mère, s'entraîne à maîtriser une nouvelle compétence qu'il pourra bientôt s'enorgueillir d'avoir acquise. La balle qui va et vient du parent à l'enfant fait office de pont entre eux. Elle rétablit un lien. Des commentaires tels que « Bravo, bien joué !» consolident enfin la confiance de l'enfant en ses aptitudes. En dépit de sa simplicité apparente, ce jeu véhicule par ailleurs des émotions prégnantes. Un père de famille me racontant en consultation que son fils s'obstinait à lui lancer son ballon de toutes ses forces, en laissant ainsi transparaître sa rage et sa frustration. Lui et moi en sommes venus à la conclusion que son fils lui demandait en réalité.
« Tu es capable d'encaisser ce que je te balance à la figure ? Ne te sens-tu pas dépassé par ce que je ressens ? Suis-je à l'abri de mes impulsions, de ma rage auprès de toi ?»
Le fils d'un autre de mes passions adorait jouer au ballon, mais quand il ne le rattrapait pas à temps, il fondait en larmes, piquait une crise et se plaignait.
« Je t'avais demandé de le lancer moins haut, tu ne m'écoutes jamais !»
L'enfant prenait le prétexte du jeu pour exprimer un ressentiment a priori étranger à celui-ci. Bien que plus riche de sens qu'on ne l'imagine en général, le jeu ne comporte pas toujours autant d'implications. Il fournit avant tout à l'enfant l'occasion de s'essayer à un rôle d'adulte comme les lionceaux qui se mesurent l'un à l'autre. Les petits d'hommes se bagarrent ou jouent au papa et à la maman. Ils gagnent en assurance à mesure qu'ils découvrent le monde et de quoi ils sont capables. Le jeu offre une occasion de se rapprocher ou de resserrer des liens distendus par une altercation. Les chimpanzés aiment se chatouiller le creux de la main, surtout après une dispute. L'intérêt du jeu est donc en second lieu de satisfaire notre besoin presque intarissable d'affection. Le jeu remplit une troisième fonction propre aux humains. Il aide à récupérer à la suite d'un stress émotionnel. Prenez l'exemple d'enfants à l'issue d'une rude journée d'école. De retour à la maison, il vous faut comprendre qu'ils souffrent. Soit qu'ils le disent franchement, soit qu'ils se montrent soupaulés. Ils s'enferment dans leur chambre ou réclament un supplément d'attention. La plupart du temps, ils recourent spontanément au jeu afin de se sentir mieux. Ils jouent par exemple à l'école, seulement cette fois ils assument le rôle du maître. Ou alors ils s'installent face à leur console et dégomment les extraterrestres. À moins qu'ils ne téléphonent à un ami pour lui raconter leur déboire selon l'habitude des adultes. En imaginant une réalité autre ou en racontant leur malheur à leur manière, ils reprennent à leur compte ce qui leur est arrivé. Rejouer la scène les aide à panser leurs plaies. Se réfugier dans un livre ou dans un match de tennis peut aussi réconforter un écolier après une journée pénible. Une petite fille de ma connaissance, éprouvant les difficultés à lire, se consacrait de retour de l'école à une activité à laquelle elle excellait, le dessin. Avant le dîner, elle montrait à ses parents ses réalisations, le temps de se rapprocher d'eux, de retrouver confiance en son talent et de surmonter l'humiliation de son échec scolaire. Avant d'examiner en détail la signification profonde du jeu, permettez-moi de répéter qu'il est amusant de jouer. Passer du temps avec ses enfants apporte beaucoup de joie. L'institutrice de ma fille m'a confié que les écoliers en maternelle rient en moyenne 300 fois par jour. Alors là, c'est pas en France, hein. Ils gardent le mot maternelle, mais c'est pas le modèle français, je pense, hein. C'est pas le modèle où on rentre dans le mental si jeune. Et si nous en prenions de la graine, pourquoi ne pas nous amuser plus souvent? En fredonnant une chanson idiote, en entamant une bataille de polochons, en racontant des blagues. Si cela vous agace de demander pour la énième fois à votre fille de sortir la poubelle, il pourrait être bon de lui chanter comme à l'opéra au lieu de rouspéter. Au moins, vous capterez son attention. Nous verrons par ailleurs qu'il n'y a pas qu'en jouant qu'on peut remplir avec humour son rôle d'éducateur. Il est possible d'entrer en communication avec l'enfant sur un mode ludique en accomplissant ensemble des tâches ménagères, en pratiquant un sport, en surveillant les devoirs, en regardant la télé, en faisant un câlin ou même en imposant une stricte discipline.
Musique maintenant.
Allez. Une petite pause musicale, nous allons écouter du Beethoven. Opus 13, Adagio Cantabile. Ah ouais, c'est que je suis sur un site espagnol. Sonate numéro 8 en Do mineur. C'est parti. Thank you. Et voici, c'était du Beethoven. Eh bien, vous êtes toujours à l'écoute de...
Radio Vassivière.
Et c'est Élève-toi avec les enfants, la numéro 52. Je suis en train de vous lire un livre qui s'appelle « Qui veut jouer avec moi ?» de Lawrence Cohen, un psychologue américain qui base tout sur le jeu avec l'enfant. Et c'est un livre paru chez Poche Marabout pour 7,50 €. 420 pages de lecture qui donne le sourire, qui ouvre le cœur. C'est plein d'exemples de jeux qu'on peut faire avec les enfants et qui les remplissent d'amour. Et après, ils vont mieux, bizarrement. Favoriser le rapprochement et non l'isolement. Dès qu'un père ou une mère échange avec son nouveau-né un regard empreint d'amour, l'un comme l'autre recourt naturellement à la voie du jeu pour tisser le contact. Tout jeu auquel les deux partenaires prennent plaisir les rapproche. Et il y en a dont c'est précisément la fonction. Coucou, cache-cache ou chat tourne autour des notions de distance et de proximité. J'ai reçu en consultation une famille dont le fils avait inventé un jeu formidable de ce point de vue. Il asseyait ses parents sur le canapé, puis il s'éloignait, courait et sautait pile entre eux. Chaque parent tentait alors de se l'accaparer. En général, il en résultait empoignade et fou rire. Jusqu'ici, on n'a pas inventé mieux que le jeu pour se rapprocher. Voilà sans doute pourquoi des enfants d'âge scolaire auxquels on demande de définir le jeu mettent cet aspect-là en avant. Jouer, disent-ils, c'est ce qu'on fait avec ses amis. Ma fille a 5 ans adorait faire semblant. Quand elle sentait qu'elle m'agaçait, elle me proposait « Bon, on dirait que tu es le papa et moi la petite fille et que tu es en colère. » Je n'aurais pas besoin de me forcer, pensais-je. Malgré tout, très vite, nous éclations de rire au lieu de nous disputer. Je trouvais astucieux de sa part de rétablir l'entente entre nous au moyen du jeu. Je découvris ensuite que certains singes jouent eux aussi à faire semblant. Les chimpanzés en particulier, les mâles adultes. Bon allez, je passe partie sur les chimpanzés, je dis pas que c'est pas intéressant, mais voilà. Les enfants ont parfois du mal à se reconnecter aussi facilement que les chimpanzés. Ils peuvent se sentir si rejetés qu'ils se retranchent dans leur coin ou qu'ils adoptent une attitude agressive. Ils deviennent casse-pieds, de plus en plus odieux et désagréables dans leur tentative désespérée de nous signaler leurs besoins de proximité affective. Ces situations où nos enfants nous exaspèrent appellent à plus de jeux encore. Et non pas à sévir ou à laisser l'enfant seul avec sa détresse. D'ailleurs, un jeu que ça me donne envie de refaire, là, vraiment, avec mes enfants, c'est je joue à sévir, justement. Voilà. Quand je sens que je serai là, je vais sévir, et ben je joue à sévir. Hein. Et ben là, c'est drôle. Ils en demandent. Et après, ils disent, j'ai fait ça de travers. Et puis, c'est que, voilà, le but, c'est que je sévisse. Quand un enfant se sent isolé, il peut rester en retrait, visage triste et sans ressort. Ou au contraire, se montrer hyperactif, n'arrivant ni à fixer son attention, ni à se tenir tranquille. Dans un cas comme dans l'autre, le monde lui paraît hostile. Il ne s'y sent pas comme un poisson dans l'eau, à l'instar des enfants capables de retrouver le lien. Un enfant seul se plaint, je m'ennuie, un gamin de 12 ans, jeun, personne n'est même. Un parent confie, je ne sais pas ce qui se passe par la tête de ma fille de 3 ans, elle a l'air tellement triste par moments. Elle ne veut pourtant pas me dire ce qui la chiffonne. Vous incitez votre fille à téléphoner à une amie et elle hurle « Pas question !» Et si elle n'est pas là ? Un petit de 8 ans se tient toujours en marge du terrain de foot alors qu'il connaît bien les autres joueurs. Il prétend « Je n'aime pas le jeu de ballon. » La réponse parentale la plus fréquente à l'isolement de l'enfant est une réaction aggravant la situation, l'inquiétude. Nous avons tendance à nous focaliser sur le comportement qui nous agace sans deviner la souffrance qui le motive. À moins que nous ne la voyons que trop. Mais nous sentions incapables de la soulager. Ce sont les moments difficiles pour tous les parents. Il nous faudrait la clé pour ouvrir la forteresse où se retranche l'enfant et l'aider à retourner sur le terrain de jeu. Cette clé, le parentage ludique peut la fournir. Pendant la rédaction de ce chapitre, une mère de famille qui m'avait consultée m'a confié par téléphone que les principes du parentage ludique lui avaient permis de rétablir le contact avec son fils de 3 ans. Ils avaient pris un long week-end en amoureux sans lui et depuis leur retour, il n'était pas dans son assiette. Il n'arrêtait pas de geindre et me collait tout le temps. Dès que je m'éloignais, même d'un pas, il s'accrochait à moi comme si sa vie en dépendait. Hier, j'avais ma partie de tennis hebdomadaire, c'est le seul sport que je pratique et l'unique moment de la semaine où je me consacre à moi plutôt qu'à ma famille. David ne m'a pas plutôt vu m'emparer de ma raquette, qu'il m'a saisi la jambe en pleurant pour que je ne parte pas. J'ai tenté de lui expliquer que l'heure était venue pour maman de jouer au tennis, en vain. Je sentais que cela tournait au rapport de force, or je n'avais pas le cœur de le détacher de moi pour le remettre à sa babysitter. J'ai repensé à ce que vous m'aviez dit. Au lieu de rembarrer David, je l'ai porté dans mes bras jusqu'au canapé. Je lui ai annoncé d'un ton enjoué « Bon d'accord, je n'irai pas jouer au tennis, tu restes avec toi et je fais la sieste. Je tombe de fatigue, ah quel oreiller confortable !» J'ai bâillé en posant la tête sur son ventre et en faisant semblant de ronfler, il s'est mis à rire et a plaqué sa main sur ma bouche pour me faire taire. J'ai fait mine de me réveiller et de le chercher du regard en m'écriant « Où est David ? Il n'arrête pas de gigoter cet oreiller !» Je me suis alors endormie en ronflant de plus belle. Au bout de quelques minutes de fou rire, David m'a repoussée et m'a dit « Vas-y, tu vas être en retard !» Il m'a serré contre lui au moment de me dire au revoir et s'est bien amusé en mon absence. À mon retour, il m'a offert un dessin de moi, une énorme raquette de tennis à la main. Ça, cette astuce, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois et c'est vrai qu'elle marche super bien. Voilà, c'était
Élève-toi
avec les enfants.
Et je vous dis à bientôt si vous avez envie de m'écrire emily.routier23@gmail.com pour des questions, pour des sujets que vous auriez envie que j'aborde. Et petit coin promotion. Je m'installe en libéral pour accompagner les familles et tous ceux qui s'occupent d'enfants, que ce soit la parentalité, la scolarité et aussi l'orientation. Et bien pareil, emily.routier23@gmail.com sur Felletin en Buisson alentour et a priori le vendredi à Ussel. Bonne journée, au revoir.